Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture.
Gabriel Garcia Marquez, romancier et novelliste colombien, se vit décerner en 1982 le prix Nobel de littérature. Et son roman le plus connu de par le monde est Cent ans de solitude, dont il dit « La plupart des critiques ne réalisent pas qu'un roman comme Cent ans de solitude est un peu une blague, pleine de clins d'œil à mes proches et par conséquent, avec leurs droits préétablis à pontifier, ils prennent la responsabilité de décoder le livre et de se couvrir de ridicule. » Pour découvrir l'univers de l'un des maîtres du réalisme merveilleux, le Dahu vous propose une lecture polyphonique de la nouvelle Le Noyer le plus beau du monde, par l'association Tourangelle Les Arpendards, dont la mission est de favoriser l'accès à la culture aux personnes rencontrant des difficultés sociales et psychiques.
Les premiers gamins qui virent le promontoire sombre et secret qui se rapprochait peu à peu sur la mer, crurent qu'il s'agissait d'un bateau ennemi. Puis ils remarquèrent qu'il n'avait ni pavillon, ni mât, et ils pensèrent que c'était une baleine. Mais quand ils vinrent s'échouer sur le sable et qu'ils dégagèrent les buissons de sargasses, les filaments de méduses et les restes de bancs de poissons et de naufrages qui le recouvraient, ils découvrirent que c'était un noyer. Les hommes qui le transportèrent jusqu'à la maison la plus proche constatèrent qu'il pesait plus lourd que les autres morts, presque autant qu'un cheval. Et ils se dirent que peut-être il était resté trop longtemps à la dérive et que l'eau avait fini par pénétrer dans la moelle des os. Quand ils l'étendirent sur le sol, ils virent que sa taille dépassait celle des autres hommes, car il tenait à peine dans la maison. Mais ils pensèrent que peut-être la faculté de continuer à grandir après la mort était le privilège de certains noyers. Il avait une odeur de mer, et seule sa forme permettait de supposer que c'était bien le cadavre d'un être humain, car sa peau était revêtue d'une cuirasse de boue et de rémora. Ils n'eurent pas besoin de lui nettoyer le visage pour comprendre qu'ils avaient affaire à un mort venu d'ailleurs. Le village avait à peine une vingtaine de baraques en planches avec des cours de caillasse sans une seule fleur, égaillées à l'extrémité d'un cap désertique. La terre y était si rare que les mères vivaient dans la crainte que le vent n'emportât les enfants. Quant aux morts, peu nombreux, victimes du temps, il fallait les jeter par-dessus les falaises. Pourtant, la mer était paisible et généreuse, et 7 canots permettaient d'embarquer la totalité des hommes du pays. Aussi, quand ils trouvèrent le noyé, leur suffit-il de se regarder pour se rendre compte qu'ils étaient au complet.
Ce soir-là, on ne sortit pas travailler au large. Tandis que les hommes vérifiaient s'il ne manquait personne dans les villages voisins, les femmes restèrent à s'occuper du noyer. Elles le décrottèrent avec des tampons de crin végétal, débarrassèrent ses cheveux de leurs broussailles sous-marines et décollèrent les rémoras avec des couteaux à écailler. Elles constatèrent bientôt que la végétation qui le couvrait appartenait à des océans lointains et à des eaux profondes, et que ses vêtements étaient en lambeaux, comme s'ils avaient navigué à travers des labyrinthes de corail. Elles notèrent également qu'il subissait sa mort avec fierté, car il n'avait pas l'air esselé des noyés en mer, ni la mine sordide des pauvrettes des noyés de rivière. Mais ce fut quand la toilette fut terminée qu'elles prirent conscience de la véritable classe du mort. Et elles en eurent le souffle coupé. Non seulement c'était l'homme le plus grand, le plus fort, le plus viril et le mieux pourvu qu'elles eussent jamais contemplé, mais plus elles le regardaient et plus il débordait du cadre de leur imagination. On ne trouva dans le village aucun lit assez long pour l'étendre, ni aucune table assez solide pour le veiller. Il n'entrait pas dans les pantalons de cérémonie des hommes les plus grands, ni dans les chemises du dimanche des plus corpulents, ni dans les souliers des pieds les plus volumineux. Fasciné par ses dimensions exceptionnelles et sa beauté, les femmes décidèrent alors de lui tailler un pantalon dans un vaste morceau de toile à voile et une chemise dans de l'organdi de mariée pour qu'il pût continuer à assumer sa mort avec dignité. Tandis qu'elles cousaient assises en rond, admirant le cadavre entre deux aiguillées, il leur semblait que le vent n'avait jamais été aussi tenace, ni la mer Caraïbe aussi anxieuse que ce soir-là. Et elle supposait que ces changements avaient quelque chose à voir avec le mort. Elle pensait que si cet homme magnifique avait vécu au village, sa maison aurait eu les portes les plus spacieuses, le plafond le plus haut et le plancher le plus robuste, et que les traverses de son lit auraient été de grosses poutrelles retenues par des boulons d'acier, et que sa compagne, à n'en pas douter, aurait été la plus comblée. Elle pensait qu'il aurait eu tant d'autorité qu'il eût sorti les poissons de la mer rien qu'en les appelant par leur nom. Et il aurait mis tant de zèle à travailler qu'il eût fait jaillir des sources d'entre les pierres les plus arides et même réussi à semer des fleurs sur les falaises. Elles le comparèrent en secret à leur mari, pensant qu'il ne serait pas capable de faire durant toute une vie ce que celui-là était capable de faire en une nuit. Et elles finirent par les répudier au fond de leur cœur comme les êtres les plus malingres et les plus mesquins de la terre. Elle s'égarait dans ces labyrinthes de l'imagination lorsque la plus âgée, celle qui justement parce qu'elle était la plus âgée, avait regardé le noyé avec moins de passion que de compassion, soupira. Il a une tête à s'appeler Esteban.
C'était vrai. Il suffit à la plupart d'entre elles de le regarder une nouvelle fois pour comprendre qu'il ne pouvait porter un autre nom. Les plus têtues, autrement dit les plus jeunes, gardèrent l'illusion qu'en l'habillant couché parmi les fleurs avec des souliers vernis, il pourrait s'appeler Lautaro. Mais ce ne fut qu'une illusion. La toile était trop courte, le pantalon mal coupé et encore plus mal cousu était trop étroit. Et les forces secrètes de son cœur faisaient sauter les boutons de la chemise. Passé minuit, le vent atténua ses sifflements et la mer tomba dans la torpeur du mercredi. Le silence chassa les derniers doutes. c'était bien Esteban. Les femmes qu'il avait habillées, celles qu'il avait coiffées, celles qui lui avaient coupé les ongles et nettoyé la barbe, ne purent réprimer un frisson de pitié quand elles durent se résigner à l'abandonner, étendue à même le sol.
C'est alors qu'elles comprirent combien, avec ce corps de géant, il avait dû être malheureux, puisque celui-ci l'embarrassait jusque dans la mort. Elles le virent condamné de son vivant, à se pencher pour franchir les portes, à s'ouvrir le crâne contre les linteaux, à rester là, planté, debout durant les visites, sans savoir où mettre ses mains tendres et roses de lamantin, tandis que la maîtresse de maison cherchait la chaise la plus résistante et le suppliait, morte de peur. « Asseyez-vous, Esteban, je vous en prie. » Et lui, renversé contre le mur, qui souriait. « Ne vous en faites pas, madame, je suis très bien. » Les talons à vif et le dos échaudé à force de rabâcher les mêmes phrases à toutes ses hôtesses. « Ne vous en faites pas, madame, je suis très bien. » Rien que pour éviter la honte de démantibuler la chaise. Et sans avoir jamais su, peut-être, que ceux qui lui disaient « Ne t'en va pas, Esteban, attends au moins qu'on ait fini le café », étaient les mêmes qui murmuraient plus tard « Il est parti, ce grand abruti. Ouf ! Alors il est parti, ce beau connard. » Voilà ce que pensaient les femmes devant le cadavre, un peu avant le petit jour. Plus tard, quand elles lui couvrirent le visage avec un mouchoir pour que la lumière ne le gênât pas, elles le virent si définitivement mort, si fragile, si semblable à leurs époux, que les premières lézardes des larmes s'ouvrirent dans leur cœur. L'une des plus jeunes se mit à sangloter. Les autres, sous l'effet de la stimulation, passèrent des soupirs aux lamentations. Et plus elles sanglotaient, plus elles éprouvaient le désir de pleurer, car le noyé ressemblait un peu plus chaque fois à Esteban. Elles finirent par tellement le pleurer qu'il devint l'homme le plus déshérité de la terre, le plus doux et le plus serviable, ce pauvre Esteban. Si bien que lorsque les hommes revinrent avec la nouvelle que le noyé n'était pas non plus un habitant des villages voisins, elles respirèrent de joie parmi les larmes. « Dieu soit loué !» soupirèrent-elles. « Il est à nous !»
Les hommes crurent que ces simagrées n'étaient que féminines futilités. Fatigués par les tortueuses vérifications de la nuit, leur seul désir était de se débarrasser de cet obstacle de l'intrus avant que le soleil farouche de ce jour aride et sans vent n'alluma sa fournaise. Ils improvisèrent un brancard avec des débris de misaine et de baume et le renforcèrent avec des carlingues de haute mer pour qu'il supporte le poids du corps jusqu'aux falaises. Ils voulurent enrouler aux chevilles du mort une ancre de navire marchand pour qu'il descende sans anicroche dans les abysses où les poissons sont aveugles et où les scaphandriers meurent de nostalgie. Et pour que les courants pervers n'aillent pas le rendre au rivage, comme cela avait été le cas avec d'autres cadavres. Mais plus ils se hâtaient, et plus les femmes trouvaient le moyen de perdre leur temps. Elles se démenaient comme des poules effrayées en train de picorer des amulettes marines dans les coffres. Les unes mettant ici un beau bordel en voulant accrocher au noyer le scapulaire du bon vent, les autres semant la pagaille pour lui passer au poignet une boussole portative. Et après tant de « pousse-toi, ma vieille, va voir ailleurs si j'y suis. Regarde, tu as failli me faire tomber sur le mort. » Les hommes commencèrent à se sentir chatouillés par la méfiance et se mirent à rouspéter. Mais bon Dieu, pourquoi toute cette quincaillerie de maître hôtel pour un étranger? Avec toutes ces casseroles et ces chaudrons que vous lui foutez, les requins vont quand même le bouffer. Mais elle continuait à tripoter leurs reliques de pacotille, remportant, emportant, disputant, tandis que les larmes qu'elle ne versait pas partaient en soupirs. À tel point que les hommes finirent par la trouver vraiment mauvaise. Depuis quand un tel remue-ménage pour un mort à la dérive? Un noyé de rien du tout, un macabé de merde. Une des femmes, mortifiée par tant d'apathie, enleva le mouchoir de la tête du cadavre, et les hommes, à leur tour, en restèrent le souffle coupé.
C'était Esteban. Pas besoin de le répéter. Ils le reconnaissaient. Si on leur avait dit « Sir Walter Raleigh », peut-être que même eux auraient été impressionnés par son accent yankee, son perroquet sur l'épaule, son arquebuse pour tuer des cannibales. Mais Esteban ne pouvait être qu'unique au monde. Elle était là, étendue comme une alose, sans bottines, avec un pantalon de prématuré et ses ongles rocailleux qu'on ne pouvait tailler qu'à l'aide d'un couteau. Maintenant qu'il n'avait plus son mouchoir, il était tout penaud. Non, ce n'était pas sa faute s'il était si grand, si lourd et si beau. Et s'il avait su ce qui allait lui arriver, il aurait cherché un endroit plus discret pour se noyer. Sérieusement, je me serais attaché moi-même une ancre de galion autour du cou et j'aurais hésité sur les falaises, comme quelqu'un qui refuse la situation. Pour ne pas vous déranger, maintenant avec ce mort du mercredi, comme vous dites, pour n'embêter personne avec cette saloperie de Maccabée qui n'a rien à voir avec moi. Il y avait tant de vérité dans son comportement que les hommes les plus méfiants, ceux qui, durant les nuits pointilleuses au large, se sentaient amers tant ils craignaient que leurs femmes ne se lassent de rêver à eux pour rêver au noyé. Oui, même ceux-là et d'autres plus coriaces frémirent jusqu'à la moelle devant la sincérité d'Esteban.
Aussi lui fit-on les plus somptueuses funérailles qu'on put imaginer pour un noyé sans origine. Quelques femmes, qui étaient allées chercher des fleurs dans les villages voisins, revinrent avec d'autres compagnes qui ne croyaient pas ce qu'on leur racontait. Et celles-ci, quand elles virent le mort, allaient chercher d'autres fleurs et ramenèrent d'autres compagnes jusqu'au moment où il y a eu tant de fleurs et tant de gens qu'on pouvait à peine avancer. Au dernier moment, on souffrit tellement de le rendre orphelin à la mère qu'on lui désigna une mère et un père choisi parmi les meilleurs. Et d'autres se proclamèrent frères, oncles, tantes et cousins, si bien que par son intermédiaire, tous les habitants du village finirent par être parents. Quelques marins, qui entendirent les pleurs au loin, s'égarèrent. Et l'un d'eux raconta qu'il s'était fait ficeler au grand mât en souvenir de vieilles fables de sirènes. Tandis qu'ils se disputaient le privilège de le transporter sur leurs épaules à travers la pente escarpée des falaises, hommes et femmes prirent pour la première fois conscience de la désolation de leur rue, de l'aridité de leur cours, de la mesquinerie de leurs rêves, devant l'éclat et la beauté de leur noyer.
Ils le lâchèrent sans ancre, pour qu'il revienne s'ils le voulaient et quand ils le voudraient. Et tous retinrent leur souffle durant cette fraction de siècle que le corps mit à tomber dans l'abîme. Ils n'eurent pas besoin de se regarder pour comprendre qu'ils n'étaient plus au complet, et ne le serait plus jamais. Mais ils savaient aussi que désormais, tout serait différent, que leur maison allait avoir des portes plus spacieuses, des plafonds plus hauts et des planchers plus robustes pour que le souvenir d'Esteban puisse se promener partout sans se cogner contre les linteaux et qu'à l'avenir, personne n'oserait murmurer « Il est mort, ce grand abruti, quel dommage, il est mort, ce beau connard !» Car ils allaient peindre les façades avec des couleurs gaies pour éterniser la mémoire d'Esteban et ils allaient s'échiner à creuser des sources dans les cailloux et à semer des fleurs sur les falaises pour qu'à chaque aube des années futures, les passagers des grands bateaux se réveillent suffoqués par une odeur de jardin en haute mer et que le capitaine soit obligé de descendre de son poste de commandement en grand uniforme avec son astrolabe, son étoile polaire et son chapelet de médailles de guerre et que le doigt pointé sur ce promontoire dressant ses roses sur l'horizon des Caraïbes, ils disent en 14 langues « Regardez là-bas, là où le vent est maintenant si paisible qu'il reste à dormir sous les lits. »
Regardez là-bas, là où le vent est maintenant si paisible qu'il reste à dormir sous les lits.
Oui, là-bas. C'est le village.
Là où le soleil brille si fort qu'ils ne savent pas de quel côté orienter les tournesols. Oui, là-bas. C'est le village d'Esteban.
Sehen Sie dort hinten, wo der Wind still ist. Dort, wo die Sonne so hell scheint, dass man nicht weiß, wohin die Sonnenblumen sich drehen sollen. Dort. Dort ist das Dorf von Esteban.
Priviți acolo. Acolo unde vântul este acum atât de liniștit. Priviți acolo, unde soarele strălucește atât de puternic, încât ei nu mai știu în ce parte să orienteze floarea soarelui. Da, acolo. Acolo este satul lui Esteban.
Brannan hini, homif afunyu nat kiewe nuan, sen aneu pisiban ogilugu. Hini, homif ahoyu pora, homif pen machamean homif ayogane, koyela kane tournesol. Hini, Pongitongi Esteban.
あちらを見てください。村に吹く風は今とても静かになりました。ベッドの下で穏やかに眠っています。あちらでは太陽がとても強く輝くので、ひまわりたちはどちらを向いてよいのかわからなくなっています。あちらはエステバンの村です。
ni muze murebe umurenge w'amahoro n'ubwiza buhebuje aho umuyaga uririmba n'izuba rimurikira bose na byose aho imirima iteye ubwuzu igeze igihe cyo gusarurwa n'umurenge wa Esteban.
Begira an non aisea da ein baketsua orain oraindik ere Owe azpian lo, han non eguzkiak distira beraz biziko dute, ez dakit zain modu gira solez gidatzeko, bai ez Estebanen eganda.
Κοίτα εκεί πέρα, όπου ο άνεμος είναι τόσο ειρηνικός που μένει να κοιμηθεί κάτω από τα κρεβάτια. Εκεί όπου ο ήλιος λάμπει τόσο έντονα που δεν ξέρουν πια προς ποια μεριά να στρέψουν τα ηλιοτρόπια. Ναι, εκεί είναι το χωριό του Esteban.
Olha ali, onde o vento é agora tão calmo que fica a dormir debaixo das camas. Ali, onde o sol brilha tão forte que eles não sabem de qual lado dirigir os girassóis. Sim, ali é a aldeia de Esteban.
شوفوا تما فين راه البرد اللي راه دابا شحال زين ما بقى ليهم غير ينحسوا تحت الناموسيات تما فين راه الشمس كتضرب كتضرب تما بقاو يعرفوا منين جهه يلفتوا الورد الشمس ايه تما المدينه ديال استيبان
regardez là-bas là où le vent est maintenant si paisible qu'il reste à dormir sous les lits là-bas là où le soleil brille si fort qu'ils ne savent pas de quel côté orienter
とても静かになりました
afonyu nat
ベッドの下で穏やかに眠っています。ベギラアンノレアイスヤダアイオリアリムイタリホルナテアゴラトスカルスカルテクニアンスノアタリアンシムスカルシェパセフロンドラトラカラトラニナリアンアダリアンアダリアンアダリアンアダリアンアダリアン。
Pour cette émission, le DAHU remercie l'association Les Arpents d'Art, l'adaptation audio de la nouvelle Le Noyer le plus beau du monde de Gabriel Garcia Marquez que vous venez d'entendre est une co-création du DAHU et des Arpents d'Art. Le DAHU vous dit à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts.